nous vous présentons dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Junier Jean-Pierre, La troisième époque de violence et crépuscule, L'élu. Production, mise en scène, Junier Jean-Pierre. Musique originale de L'élu, Lionel Morzetti.
Pas parler. Il y a toujours une prime, que tu es bête. Tu leur fournis un mutant comme ça, gratuitement. C'est comme si moi je demandais à l'épicier gratuitement des pommes de terre. Que tu es bête. Tu te feras toujours avoir, mon pauvre Jules. Il lui dit, oh, c'est le premier. La prochaine fois, je ferai attention. Et tu crois qu'il y aura une prochaine fois? Il paraît qu'il y en a plein. Et puis, ils prennent n'importe qui, sans faire de tri. Tiens, le prochain, l'épicier du coin, il nous fait concurrence. Ils entendent du bruit dans la rue. Garde de police, ambulance, pompiers, la rue est barrée, il lui dit, ils font vite. Tu crois que c'est pour lui tout ça? Oui, il devait être drôlement dangereux. J'ai bien fait de le dénoncer. Ils entendent des pas dans l'allée.
Merde, arrêtez, quoi!
Quoi? Le petit claque. Que voulez-vous? Venez avec nous. Mais j'ai rien fait. Venez. On pousse l'homme. On le pousse hors de chez lui. On le tire. On le fait descendre les escaliers. Et on sort de l'immeuble.
Vous avez
vu ça?
C'est lui.
On l'enferme dans une camionnette. Et police, pompiers, tout le monde s'en va.
Bien reçu, nous rendons prochain train à vous. Galerillage secteur 10 terminé, attendons instruction.
Carte 132-17, bien reçu.
Voiture 22, rien d'espoir.
Qu'elle a été...
Non, t'inquiète pas.
Continue en route dans le quartier Grenaillet. À vous 326.
Accident signalé sur l'est, prochain train.
D'autres voitures non désignées. Éloignage secteur 10, convergé sur la rive est. La... Le grillage secteur 10 terminé, attendons instruction.
Merde, arrêtez, quoi.
Garde 232-17, bien monsieur.
Voiture 22, il y a des soucis.
Vous avez vu ce soir? C'est lui.
L'homme est mené à l'hôpital. On va lui faire une prise de sang et voir pour ses yeux. Si c'est positif, on le mène immédiatement, sans le lui dire, au crématoire. Il a beau demander pourquoi ses analyses, on ne lui répond pas. Cette fois, le résultat est négatif. C'est un humain. Le commissaire dit « Merde, il faut le relâcher !» Le jeune homme dit « Relâchez-moi si je suis innocent !» Le médecin dit « Si on l'emmenait tout de même là-bas, ni vu ni connu et pas d'histoire !» Le commissaire dit « Bon, pour cela, c'est oui, mais pas pour les autres. » Il dit à l'homme « Nous allons vous mener pour une dernière expérience. Vous serez libre. » Et on le mène au crématoire.
Tu vois quelque chose?
La délation se fait beaucoup par lettre anonyme. Là, on y met le paquet. Les voisins, la famille, les compagnons de bureau, les maîtresses, les amants, etc., etc. On a créé un service spécial pour lire et classer ses lettres. Mais toutes les personnes qui sont dénoncées sont prises. Ce qui fait entre le téléphone et les lettres anonymes, ça fait un nombre considérable de personnes. Plus que la population de la France. Que faire? On décide d'en prendre le plus possible et de faire le ramassage 24 heures sur 24.
Au moindre mouvement, je tire. Vous êtes la dernière. Nous avons capturé les fugitifs.
Surveillez-les, je sens bien, capitaine.
Tournez-vous.
Capitaine, aidez-le!
Les jours passent, chacun surveille l'autre, même dans la famille. Le mari se demande si sa femme, la femme, si lui ou ses enfants, la mémé qui gêne, etc., etc. On a mis une roue en route, une drôle de chose qui brise les consciences et permet le crime parfait. La plupart du temps, le ramassage se fait sans trop d'histoire, mais des fois, des soi-disant mutants essayent de se défendre et ça crée des courses-poursuites dans les allées, dans les rues.
Tournez-vous.
Capitaine, aidez-le!
Dans un lit, un homme mince, cheveux châtains, dans les 40 ans, en pyjama bleu, à côté sa femme, blonde, un peu plus grasse que lui, en chemise de nuit blanche. L'homme dit à sa femme, « C'est une occasion unique de nous en débarrasser. » Elle lui dit, « Ils ont 10 mutantes. » « Je me demande pas, je me demande si elle ne l'est pas un peu. Il n'a qu'à voir. » Comme elle marmotte entre ses lèvres. Et puis, elle a toujours été bizarre. Elle n'a jamais voulu s'occuper de ses petits-enfants. Si elle n'aime pas les enfants, ça vient qu'elle n'est pas humaine. Alors ? La femme soupire et lui dit, « Oui, mais si elle n'est pas humaine, comme je suis sa fille, ce n'est pas la même chose. Toi, ton père était humain, lui. Il a fait la guerre. Et puis, cela nous ferait une pièce de plus. On pourrait la transformer en salon. » Elle lui dit.
À moi.
Tu es d'accord pour ce téléphone?
Oui, tiens, tu as raison.
Le mari se lève.
Mets ses chaussures.
Elle lui dit. Tu le fais maintenant?
Oui, ils ont dit 24 heures sur 24. Et plus tôt ce sera fait, mieux ça vaudra. Demain matin, tu n'auras pas à lui faire son petit déjeuner. Et plus vite ils seront débarrassés, mieux ce sera. Et ils sortent de la chambre pour aller à la salle à manger. Prendre le téléphone qui est sur le buffet. C'est le fameux numéro vert. Allô, opération M.
Oui, monsieur.
Est-ce que vous pouvez nous débarrasser de la faire. La mère de ma femme.
C'est une mutante. Oh, pour ça, oui. Elle n'aime personne. Elle marmonne de drôles de choses, comme si elle parlait à des gens d'un autre monde.
Elle lui dit, « Les mutants ne sont pas des martiens, monsieur. »
« Oui, bien sûr. Alors, vous venez la chercher ?»«
C'est urgent ?»«
Oui. »«
Bien. Je la mets sur la liste d'attente. On viendra la prendre demain matin. Nous sommes débordés. Préparez-la. Comme ça, ça ira plus vite. Votre adresse, s'il vous plaît ?» Il la lui donne.
« Monsieur Difolco Rodriguez, 24 rue du Sergent Blandan. 69-0001.
Bien, monsieur, on va transmettre au service.
Au revoir.
Et elle décroche. Il remet l'appareil en place.
Sort de la salle à manger pour retourner vers sa femme.
Elle lui dit, « Lève-toi, ils viennent la chercher. »«
Déjà ?»«
Oui, ce matin. »«
Mais il est 2 heures du matin. »«
Ça ne fait rien. Ils sont débordés et ils veulent qu'elle soit prête. »«
Oh, mon Dieu, ma pauvre maman !»
Elle se lève. Met ses pantoufles.
Moi.
Tu trouveras bien.
Lui se recouche.
Elle lui dit, qu'est-ce que tu fais?
Il lui dit, c'est ta mère. Tu te débrouilles avec elle. Et puis, moi demain matin, je me lève tôt. Il faut que je dorme.
C'est ça. Tu me laisses toujours faire sans le travail.
Et elle sort de la chambre. Elle va frapper à la porte. Pas de réponse. Refrappe encore une fois. Rien du tout. Elle entend son mari qui lui crie.
Entre, tu sais bien qu'elle est sourde, comme une morte.
Elle entre. La pièce est dans le noir. Elle est claire. Petite pièce.
Petite pièce meublée d'un lit à 2 places, d'une grande armoire à 2 portes, une commode, une chaise, une table de nuit. Les meubles sont vieux, 1930. La pièce sent le renfermé, les médicaments, la sueur, l'eau de Cologne. Il y a au-dessus de l'armoire des paquets et des valises en carton vert. Sur la commode, il y a une statuette en plastique bleu de la Vierge de Lourdes. Des cadres avec des photographies de famille. Sur la table de nuit, une lampe de chevet 1960, carton et bois et médicaments. Un verre d'eau avec le dentier. Au-dessus du lit, un crucifix de bois avec du buis. Sur le mur, en face de l'armoire, une photo encadrée de son Auguste, son mari mort. Il y a, sur la chaise de paille, des tas de vêtements. La mère dort dans son lit.
La fille va vers elle.
Se penche, la touche un peu pour la réveiller.
Maman!
La mère se réveille en sursaut.
Qu'y a-t-il? Il faut te lever.
Pourquoi?
parce qu'on va te chercher. Mais pour aller où ?
Elle regarde l'heure à sa montre qu'elle a toujours à sa poignée.
Mais il est 2h30, il y a le feu ?
Non, maman.
Eh bien, je me recouche.
Mais non, il faut te préparer. On va te chercher.
Mais pour aller où ? Je n'ai pas demandé de taxi.
Sa fille lui dit.
Pour aller avec des messieurs.
J'ai plus l'âge d'aller avec des messieurs. J'ai mon Auguste au cimetière. Cela me suffit. Je me recouche. Nous verrons plus tard.
Bien, maman.
Et la fille s'en retourne. Elle retrouve son mari. Se recouche. Son mari lui demande. Elle est prête?
Non, elle veut rester au lit.
Mais ils ont dit qu'il fallait la préparer. Ils risquent de ne pas nous la prendre. Alors, il soupire. Se lève. Il n'y a que moi qui sois capable de faire quelque chose ici. Elle lui demande,
où tu vas?
Je vais la réveiller, pardi. Et il sort de la chambre. Dans la chambre de la belle-mère. Éclaire et s'approche Julie. La réveille. Réveillez-vous.
Qu'est-ce qu'il y a?
Il faut vous lever.
Mais j'ai dit à ma fille qu'il était trop tôt. J'ai pas demandé un taxi.
Vous levez. Vous devez être prête pour partir.
Pour aller où?
Je ne sais pas. Mais on vient vous chercher parce que vous êtes une mutante.
Qu'est-ce que c'est?
Quelque chose que l'on doit se débarrasser. Parfaitement. Ne faites pas l'imbécile. Vous êtes une mutante. C'est extraordinaire. Vous allez être servie comme une reine. Être mutante, ce n'est pas permis à tout le monde.
Ma foi, puisque je suis mutante, on va sûrement parler de moi à la télé.
Elle se lève.
Je m'habille comment?
Le mieux que vous pourrez, mais pas de bijoux.
Pourquoi?
À cause de la lumière, ça l'éternit.
Ah bon?
Et il la laisse s'habiller.
À 9h du matin, ils sont venus la chercher. Le mari l'a forcée à attendre dans le couloir sur une chaise. Sa fille venait la voir et lui disait
« Oh, ma pauvre maman! Ma pauvre maman!
Mais pourquoi? Je suis une mutante! Je suis une mutante! C'est bien d'être une mutante !»
Elle demande à son mari pendant le petit déjeuner.
Tu crois qu'il faut vraiment s'en débarrasser?
Oui, tu veux, si tu veux un salon. Et puis, ça nous fera des économies, plus à nourrir, à la nourrir. Et nous allons hériter.
Du matin. On a frappé à la porte. Le mari va ouvrir. Un policier en civil, des policiers en tenue, des infirmiers.
C'est ici la mutante?
Oui,
elle est dans le couloir. Tout le monde entre.
Ils vont vers la vieille.
Le commissaire dit, il faut nous suivre.
Elle demande, pour aller où?
Il lui dit, à l'hôpital. On va vous faire le test de mutant.
Et je ne suis pas malade.
Aucune importance. Que vous soyez ou non malade. Allez, soulevez-la. Et elle est entourée. Et on la sort inquiète.
Deux jours plus tard, il ne reste que des cendres, parce que mutant ou pas, pour éviter les ennuis, l'on brûle, c'est plus simple. Dans un parc, un homme et une femme marchent l'un près de l'autre. La femme est grande, mince, cheveux blonds, visage fin dans les 35 ans. Elle porte un tailleur brique. Lui a la même taille qu'elle. Il est mince, cheveux châtains, visage ferme. Il porte un costume gris. Ils travaillent tous les deux dans une société import-export. Elle est secrétaire de direction, lui directeur commercial. Entre midi et 13h, ils mangent ensemble, puis se promènent un peu parc Monceau. Elle lui dit
« M'aimez pas, Jean-Romain ?»
Il lui dit
« Mais qu'est-ce qui vous fait dire ça, Martine ?»«
Si vous m'aimiez, nous vivrions ensemble. »
Il lui dit
« Mais qu'est-ce qui vous fait dire ça, Martine ?»«
Si vous m'aimiez, nous vivrions ensemble. »
Il lui dit,
je ne demande que ça. Mais vous savez bien, il y a vos enfants.
Et soupire, il lui dit,
Les enfants en bon dos.
Vous savez très bien que je ne supporte pas les enfants.
Elle lui dit, je ne comprends pas. Vous avez été vous-même un enfant.
Oui, mais c'est fini. Et le babillage, les cris, le désordre, la surveillance, pour moi non. J'ai besoin de calme.
Elle lui dit, dites surtout que vous ne supportez pas les miens parce qu'ils ne sont pas de vous.
Elle lui dit, non, pas du tout. D'ailleurs, je n'en veux pas.
Alors, vous ne voulez pas vivre avec moi ?
Avec vous, oui. Mais pas avec eux.
Bien. Je vous ai facile à vous. Vous n'en avez pas. Moi, je ne peux tout de même pas les abandonner.
Si vous m'aimez, je ne dis pas de le faire, mais vous pouvez peut-être les donner à une vieille grand-mère.
Elle lui dit, je n'ai ni grand-mère, ni mari, ni mère.
Et soupire, il dit,
bien. Puisque nous sommes dans une impasse, cela ne servira à rien de nous voir. Adieu.
Il lui dit, si vous êtes libre, je vous aime. Elle hausse les épaules et se sauve en courant.
Elle retourne à son travail. Retrouve son bureau, son ordinateur, son téléphone. S'assoit et soupire. Elle a les larmes aux yeux parce qu'elle l'aime encore.
Elle dit que si elle n'avait pas eu d'enfant, quelle idée elle a eue ? Elle serait heureuse maintenant.
C'est bien des idées de femmes insouciantes que de vouloir des enfants.
Elle passe une après-midi horrible. En attendant qu'il lui téléphone. Mais non, il ne le fait pas. Bien sûr, c'est un mec.
Elle prend sa voiture pour rentrer chez elle. Elle habite une vieille maison à Versailles. Maison héritée de sa mère.
Elle a arrêté sa voiture devant le portail de sa maison qui se trouve dans une petite rue tranquille. La maison à deux étages du 18e, très jolie. Elle ouvre le portail. On se trouve dans une cour pavée qui amène jusqu'à la maison. C'est la maison par une petite terrasse. Il y a une porte, double porte d'entrée. Elle entre chez elle. La maison est meublée Louis XV.
C'est clair, très beau, beaucoup de goût. Elle va dans sa chambre pour se changer. La chambre est au deuxième étage. Une fois dans sa chambre, elle se déshabille. Se met une robe d'intérieur, soupire et sort de sa chambre. Elle entend le portail qui s'est ouvert, puis la porte de la maison. Des pas, une voix dit « Non, je le dirai à maman, tu es un salaud et toi un pédé, tu me rendras mon pull. » Et ça court dans les escaliers. L'on crie « Maman, 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 maman !» Elle soupire et sort de la chambre. Ses deux fils lui tombent dessus. L'aîné de 10 ans, l'autre 9. Ils sont blonds, beaux, habillés de jeans et de t-shirts blancs, avec, par-dessus le pull, un autre pull rouge, l'autre la jaune. Le petit dit « Guillaume m'a pris mon pull !» Elle dit à Guillaume, « Faudra le lui rendre !» Guillaume lui dit, « C'est toujours lui qui a les plus belles choses !» Il lui tend son pull, « Tiens, mouchard !»« Je ne suis pas un mouchard, si tu en es un !» Le petit se rue sur le grand. La mère dit, « Arrêtez ! Guillaume, arrête de vous chamailler !» Elle les laisse. Elle va à la cuisine préparer le goûter. Une fois à la cuisine, elle se dit « J'en remets un raison. Ils sont difficiles à vivre. » Et elle prépare le goûter. Une demi-heure plus tard, elle les regarde manger en se chamaillant, en mangeant mal. Cela l'énerve et la dégoûte. Vous pouvez pas manger plus proprement, non? Et arrêtez de vous disputer. Elle est à bout. Après s'être disputée avec Jean-Romain, le travail et ces deux monstres qui sont la cause de son malheur, car c'est vrai, sans eux, elle serait heureuse. Elle est seule et prépare le repas du soir.
Elle en a assez aussi. J'ai joué la bonne. Si elle était avec Jean-Romain, elle en aurait une au moins. Une fois qu'elle est finie de préparer le repas du soir, elle en a assez. Alors, elle décide d'aller dans sa chambre pour se reposer un peu. Elle ouvre la porte de sa chambre et trouve Guillaume devant la coiffeuse en train de fermer un tiroir. Elle lui demande « Qu'est-ce que tu es venu faire dans ma chambre ?»«
Rien. » »«
Tu n'as pas le droit de venir ici. »« Qu'est-ce que tu es venu faire ?»«
Rien. » »«
Ne mens pas. Tu as ouvert le tiroir de ma coiffeuse. Qu'est-ce que tu es venu y prendre ?» Ne réponds pas. Elle lui dit, qu'est-ce que tu as dans la main? Ne dis rien. Elle s'approche de lui, lui tend la main. Il se dégage. Fais voir. Il se dégage. Il veut sortir. Elle le rattrape par et le tire par son t-shirt. Le tourne de son côté et en le maintient toujours. Car il cherche à se dégager. Elle lui donne une gifle. Il baisse la tête. Lui tend le bras. Il lâche sa main. Et fait tomber à terre une broche. Elle la ramasse. Ma broche, qu'est-ce que tu voulais en faire? Raconte, dis-moi la vérité. Elle le gifle. Voilà, voleur. Dis.
Je voulais la vendre. C'est rien qu'une vieille broche que tu ne mets jamais.
Elle lui dit. Et alors, c'est ma broche, la broche de ma mère. Elle était à ma mère. Tu ne veux pas que je touche à tes affaires ou que je jette quoi que ce soit, même tes vieux pulls pourris? Il ne dit rien. Elle lui dit. Et ce que tu viens de faire, c'est du vol. Parce que tu as volé ta mère. Il lui dit.
Il n'y a pas de vol entre les parents et enfants.
Elle le gifle. Et pourquoi ce vol? Il lui dit.
Parce que j'ai besoin d'argent.
Je t'en donne tous les mois. Il ose les épaules et lui dit.
C'est pas assez. Tu t'en rends pas compte?
Qu'est-ce que tu attends à acheter?
Comme tout le monde, des CD, des fringues, le ciné, le café, transport, les filles.
Les filles à 10 ans?
Ben oui. J'avais créé l'école mixte. C'est bien pour ça?
Elle lui dit.
Il te faut tant d'argent que ça? Oui.
Et tu trouves normal de voler ta mère? Il ouvre ses épaules et lui dit.
Nous les jeunes, on n'a rien. Alors le vol, la drogue, le sexe, c'est normal.
Qu'est-ce que c'est que cette semblant de morale que cette histoire et l'affection, l'amour. Si tu m'as volé, c'est que tu m'aimes pas. Il ne dit rien. Elle lui dit. Je te remercie de ne pas me mentir.
Alors, tu peux t'en aller, tu n'auras pas d'argent de poche pendant un mois. Il lui dit, je m'en fous, je volerai. Fous le camp! Et il s'en va. Elle soupire. Il n'a pas la moindre affection pour moi. Il ne m'aime pas. Je ne suis que sa bonne et son chéquier. C'est inhumain. 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 Je vis avec des monstres. Elle s'allonge sur son lit. Se dit, Jean-Romain a raison. Je ne peux pas vivre avec ça. Non. Ils n'avaient rien à voir avec eux. Des monstres. Et dire que je me suis sacrifiée pour eux. Je pourrais être heureuse avec un homme que j'aime. Mais non, il faut que je sois la boniche de ces monstres. Sous prétexte qu'ils sont sortis de mon cœur. J'ai sacrifié ma jeunesse pour ces deux monstres. Tout va de travers. Je ne suis pas sacrifié pour rien, pour le reste de mes jours, pour ces monstres qui ne m'aiment pas. Ah non, Jean-Romain, je l'aime. Je ne veux pas le perdre, surtout à cause de ces monstres. Si seulement je pouvais me libérer d'eux. Tout d'un coup, elle pense à l'appel pour les mutants. Ils ne sont pas des êtres humains. Je peux, j'ai le devoir, au nom de la liberté de la femme, de le faire. Oui, il suffit d'un numéro et je suis libre. Parce que je le ferai. Oui, je vais le faire. J'ai bien le droit de me défendre, de défendre ma vie, de sortir de l'impasse de ces deux monstres. Elle se lève, se range un peu et sort de la chambre. Elle va au salon. Vers le téléphone qui est sur table basse. S'assoit.
Nous vous avons présenté dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre. La troisième époque de Violence et Crépuscule, l'élu, production, mise en scène, Julien Jean-Pierre, enregistrement, CVRP. Musique originale de l'élu, Lionel Morzetti.